James Brown, qui est un des personnages de la bande dessinée de Zvian, qui est avec nous pour nous présenter Yo-Yo La La La, sa bande dessinée qui aborde la question de l'autisme. Bonjour, Zvian.
Bonjour.
J'espère que je prononce bien votre nom.
Oui, oui, parfait, 10 sur 10.
OK, super. Alors, c'est une BD qui revient sur une expérience que vous avez vécue.
Oui.
Et ça s'est passé donc en 2004. C'est un projet que vous mijotiez depuis longtemps, donc.
Ah, mon Dieu. Dès que je suis allée là, c'est drôle parce que je faisais pas beaucoup de BD dans ce temps-là. Puis déjà, quand j'étais sur place, je me disais, ah, ça, un jour, je vais faire une BD là-dessus parce que c'est trop fort. C'est trop
intense. Oui. Qu'est-ce qui était trop fort, justement, qui vous donnait envie de créer à partir de cette expérience-là?
C'était tellement... c'était un camp de jour pour personnes autistes. Donc, c'est-à-dire qu'on dormait avec eux. Ils restaient avec nous pendant, il me semble, c'était 12 jours à cette époque-là. C'était un lieu fermé qui était un peu coupé de l'extérieur. C'était un moment où le Wi-Fi venait juste de commencer, mais il n'y avait pas vraiment l'Internet, il n'y avait pas de téléphone. Donc, on était vraiment comme... enfermé dans le bois, dans un lieu un peu surréaliste, c'est-à-dire que côtoyer des autistes qui ont leurs propres règles qui sont complètement différentes de la norme. On dirait que notre rapport avec la norme était complètement changé. En plus, c'était de vivre avec d'autres moniteurs 24 heures sur 24. Donc, c'était une expérience que j'avais pas faite souvent dans ma vie. Donc, tu sais, c'est vraiment beaucoup de premières expériences, puis vraiment beaucoup d'expériences déstabilisantes aussi.
Et est-ce que...
Oui. De ne pas communiquer de manière, disons...
régulière? Ou...
Régulière avec quelqu'un.
Oui. Ce camp-là était situé où et est-ce qu'il existe toujours?
Oui, le camp existe toujours. Il a beaucoup changé, d'ailleurs, depuis l'époque où ce que je décris, là, en 2004. En 2004, la première fois que je suis allée, c'était à Saint-Alphonse de Rodriguez, au camp Papillon, dans la Naudière, qui est un super beau camp avec un beau lac pour les enfants handicapés. Puis l'année suivante, ça l'a déménagé à Audubon Park. Puis je l'ai fait, je pense, 4 ans. Puis dans les 3 années qui ont suivi, c'est resté à Audubon Park. Ils ont redéménagé dans une autre place. Ils sont revenus à Audubon Park. Il y a eu beaucoup de changements, mais ça fait un bout de temps là, que je suis allée. J'ai encore quelques contacts avec eux.
Ah oui, c'est ça. Je me demandais si vous étiez toujours en contact avec certains moniteurs ou certains campeurs.
Des campeurs, non. Ça m'est déjà arrivé d'en croiser par hasard dans le métro de Montréal. C'était spécial, mais c'était un peu après, donc c'était quand même drôle.
Et vous vous êtes reconnus?
Pardon?
Vous vous êtes reconnus dans le métro?
Ben, j'étais avec... On chantait des tunes de Noël dans le métro McGill.
Ah oui.
On était à l'université, ça fait longtemps, c'était genre en 2006. Puis on a croisé une campeuse, on l'a reconnue tout de suite. « Hey, Émilie, salut! » Elle, mon Dieu, pauvre elle, était complètement overwhelmée. Elle nous reconnaissait, mais on n'était pas dans le contexte du camp, fait qu'elle était un petit peu déstabilisée.
Oui, oui,
elle
regardait
par terre, mais nous autres, on était super énervés. En tout cas, on était contents de la voir. Fait qu'après ça, on était comme « Wouh! » On est reparti chanter.
Vous avez gardé contact avec aussi des moniteurs et des monitrices.
Bien, il y a des moniteurs que c'était carrément mes amis d'université dans le temps qu'on étudiait en musique.
Oui, c'est vrai.
Fait que, eux, j'ai encore des contacts avec eux. Puis il y en a un qui restait à Emergo. En fait, c'est devenu un des directeurs généraux, il me semble, d'Emergo. Fait que c'est surtout avec lui que j'avais un contact pour savoir, tu sais, qu'est-ce qu'il pensait de la BD. Il a lu le PDF avant que je l'envoie, etc.
Et j'imagine qu'il vous a dit, bien, continue comme ça parce que ça a été publié et lancé au début du mois de mars.
Et oui, exactement.
Donc, aux éditions Power, rien de moins.
Power, pardon.
Oui. J'allais devant moi en plus. Et est-ce que l'univers que vous décrivez influence votre façon de dessiner? Parce que c'est vraiment éclaté. Je ne sais pas comment vous pouvez décrire votre BD parce que ce n'est pas linéaire du tout, du tout.
Non, bien, c'est semi-linéaire, je dirais, parce que le projet s'inscrit dans un plus gros projet, en fait, d'une série de revues que j'ai commencé en 2016. C'est-à-dire que je publiais 2 livres par année dans lesquels il y avait un feuilleton.
Mm-hmm.
Puis la bande dessinée sur les autistes, ça se ramasse dans le 8e numéro. Puis tous les numéros sont vraiment éclatés. C'est-à-dire que il y a de la photo, il y a du collage, il y a des bandes dessinées qui n'ont pas rapport avec la bande dessinée principale. Tu sais, c'est... Je vais découper dans du papier, dans des pubs. Il y a vraiment beaucoup d'affaires différentes dans le même livre. Celui-là, par rapport aux autres numéros de la revue, il est un petit peu plus linéaire que les autres.
Vous ah oui.
C'est pas linéaire, mais celui-là est un peu plus linéaire que les autres.
Mais en tout cas, on est capable de bien suivre l'histoire, là. Tout ce qui se passe au camp et vos rencontres avec les campeurs, les moniteurs. Mais oui. Tout est présenté de façon originale. Il y a rien de banal dans votre manière. Ben, je pense que c'est la manière Ziviane, c'est le contraire de la banalité, je trouve, là.
Mais j'espère surprendre un peu les gens quand je le fais, parce que moi, j'essaie de me surprendre moi-même, en fait.
Ah oui. Et vous nous présentez donc les campeurs sous les noms Guy Lafleur, Marguerite Duras, James Brown, c'est pour ça qu'on l'a entendu tantôt. Est-ce que c'était leur vrai nom dans la vie? J'imagine que non.
Non. Évidemment, je ne voulais pas prendre leur vrai nom.
Non.
Ça a été vraiment difficile, cette partie-là, parce que, tu sais, au début, je me disais, au début du projet, en fait, je voulais faire une autofiction. Je ne voulais pas faire comme vraiment une autobiographie. Je voulais avoir une certaine distance.
Mm-hmm.
Puis, c'était impossible à inventer. Je veux dire, j'étais bloquée par rapport... Tu sais, la réalité était tellement riche. Les personnages que j'ai rencontrés, les autistes, étaient tellement pas réplicables. Je sais pas comment faire. À chaque fois que j'essayais de trouver, mettons, des tics ou des façons d'être qui sont semblables, mais qui sont pas exactement la réalité, ça sonnait faux.
Mm-hmm.
Fait que j'étais un peu prise avec le comme, waouh, il faut que je raconte la vérité. Je peux pas essayer d'inventer quelque chose. Ça s'invente juste pas. Fait que je m'étais dit, mais quand même, je veux garder, je veux pas dévoiler les campeurs, leur identité, etc. Fait que je me suis dit, au début, j'essayais de trouver des noms. Mais encore une fois, ça sonnait faux. Je sais pas, c'est juste un feeling, là. C'est difficile à décrire.
Mais il faut le sentir, ça. On le sent quand ça sonne vrai, puis on le sent quand ça sonne faux.
Exactement. Puis finalement, je me suis dit, ah, je vais prendre des noms que c'est sûr que c'est fictif. Donc, les lecteurs vont savoir que c'est des noms fictifs. Puis ça va donner aussi une idée du caractère de la personne.
Ouais. Mais ce n'était pas du tout leur nom de camp, parce que vous aviez un nom de camp, vous vous appelez Saturne.
Mais oui, non.
Les campeurs, non.
Leur vrai nom.
Leur vrai nom, OK.
Oui.
Et donc, c'est peut-être un peu pour ça que ça a pris quelques années, plusieurs années, là, avant que vous conceviez, que vous nous présentiez cette BD-là, là, Yo-Yo La La La.
Bien, ça a été... J'avais commencé... J'ai eu plusieurs faux départs, là. Je voulais vraiment raconter cette histoire-là. Puis juste cette histoire-là, en passant, c'est peut-être le quart de l'été 2004. Puis j'ai toujours eu envie de raconter tout au complet. Parce que là, c'est juste le séjour des adultes. Donc, les autistes desquels je m'occupe. Là, on s'entend, l'autisme, c'est vraiment large. Là.
Mm-hmm.
Moi, ce que j'ai vu pendant cet été-là, c'est des cas lourds de gens qui étaient soit pas autonomes du tout ou semi-autonomes. Tu sais, il y a des autistes qui sont capables de vivre leur vie puis d'avoir un emploi, etc. Fait que c'est quand même une tout petite portion du spectre. Là,
mais c'est quand même ceux que vous avez rencontrés, les personnes autistes que vous avez rencontrées, étaient quand même capables là, de vivre dans un camp.
Oui. Bien, il y avait des cas vraiment lourds quand même. Il y a l'année suivante, je m'occupais d'un campeur, il avait 20 ans, il avait un visage super illuminé, mais il allait pas bien cette fois-là. Tout ce qu'on faisait, il y avait de la misère à marcher aussi, il fallait comme se mettre derrière lui pour le faire marcher. Il avait un casque parce qu'il se frappait beaucoup la tête, il se pinçait beaucoup jusqu'au sang, il fallait toujours comme prendre ses mains. Il y avait aucune communication possible avec lui parce que passé un certain âge, les autistes, c'est-à-dire quand ils étaient jeunes. Tu sais, en ce moment, les autistes jeunes, ils sont vraiment bien encadrés. Ils ont des pictogrammes, ils ont des méthodes de communication qui sont quand même plus avancées. Mais dans, mettons, les années 70, là, il n'y avait pas nécessairement ça.
Ouais.
Puis on envoyait directement les gens dans des institutions, donc ils n'ont pas été stimulés quand ils étaient jeunes. Fait que plus ils sont vieux, plus c'est difficile de communiquer avec eux. Puis moi, c'était ça ma grande découverte quand je suis allée. Bien là, ça, c'était en 2004. Là,
puis en plus, vous n'aviez pas du tout d'expérience, vous, là. Vous êtes arrivée dans ce monde-là pas formée du tout.
J'avais zéro expérience. J'arrivais de nulle part. J'étais une artiste en musique, puis j'arrivais ça. Mais quand même, la formation qu'on avait eue était super bonne. Puis... je sais pas, je me suis trouvé des points en commun avec les autistes. Tu sais, les musiciens, c'est des gens qui sont un petit peu tout seuls à pratiquer pendant des heures et des heures et des heures sur une telle mesure, en tout cas notre gang de pianistes. Là. Fait que je pense qu'on avait assez d'affinités pour bien connecter.
Oui, parce que vous avez connecté. Vous aviez beaucoup, beaucoup de patience aussi. Je ne sais pas, vous aviez le talent de l'intuition de les comprendre, parce qu'il y en a un, entre autres, qui prend son repas et c'est long, 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 mais vous ne le bousculez pas du tout. Vous êtes comme ça avec tous vos campeurs, je trouve, là, parce qu'ils vous en font vivre, ils vous en font voir, ils vous en font ramasser aussi.
Oui, 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 en effet, sauf que il faut dire que le contexte du camp amène ça, c'est-à-dire que c'est pas comme si on était dans la vie réelle où est-ce que là, on a un horaire, on avait un horaire au camp, mais je veux dire qu'on est pressé, qu'à telle heure, il faut aller à telle place, etc. Tu sais, on était dans un contexte de camp où on avait tellement tout notre temps, où on était là uniquement pour les campeurs. Ouais. Ce genre de patience-là était comme un peu normal, tu sais.
Oui, mais il y aurait pu avoir des moniteurs. Certainement qu'il y en a eu qui perdaient patience, vous étiez dans un lieu idéal.
C'est sûr, sauf que j'ai l'impression que les gens qui pourraient perdre patience, c'est pas nécessairement les gens qui vont appliquer pour ce genre d'emploi.
Ou ils resteront pas longtemps. Il y a beaucoup d'humour, mais vous vous moquez jamais des campeurs.
Non, ils aiment bien trop. Mais de toute façon, je pense que c'est humain de se moquer d'un peu de tout le monde. T'sais. Je pense qu'il y a des campeurs, c'est pas que je me moque d'eux, mais ils ont des façons drôles.
Ben, c'est ça.
Puis je trouvais ça... parce qu'il y a certaines littératures qui existent, mettons, pour les handicapés, où est-ce qu'ils les idéalisent, qu'ils disent que c'est des anges, etc. Puis ça, je trouve ça un petit peu déshumanisant. Mm-hmm. J'aime mieux comme, tu sais, les traiter un peu comme si... Oui, ils sont des handicapés, mais ils sont un peu mes égaux, tu sais. On est tous les deux des êtres humains, on a tous les deux des qualités, des défauts. Fait que autant les autres moniteurs, j'hésite pas à parler un peu de leur bon puis leur mauvais côté, mais les campeurs aussi, je pense qu'il faut que... Il faut qu'on reste dans une approche humanisante avec tout le monde.
Et en terminant, Sviane, pourquoi vous vous êtes limitée à 1000 exemplaires sans possibilité de réédition?
Ah, mon Dieu, c'est une longue histoire.
Et pourtant, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, mais racontez-nous en résumé cette histoire.
Mais c'est juste parce que c'est ma revue. La revue, quand je l'ai partie, c'était des. Je voulais que ce soit des pas beaucoup d'exemplaires.
Vous parlez de votre série aussi. Jungle.
Exactement. Okay. J'aime ça, des œuvres éphémères. J'aime ça qu'on puisse le prendre dans nos mains, puis ensuite qu'on sache qu'il n'y en aura pas des millions et des millions qu'on continue, parce que j'ai l'impression que... Ben, là, je vais te dire quelque chose qui est peut-être gros, là, mais j'aimerais ça qu'on fait un peu trop de livres.
Mm-hmm. Ça rend la chose précieuse.
Ça rend la chose plus précieuse. Ça fait en sorte que la ressource est plus précieuse aussi. Tu sais, les livres, c'est des arbres, c'est des ressources naturelles. Je me suis dit, tu sais, ce livre-là, c'est le récit de Lotus, il n'est pas très long. Il est comme moins qu'une centaine de pages, je pense. Il est à peu près 80 pages. Fait que c'est un tout petit livre. C'est pas quelque chose que... C'est pas une grande œuvre sur laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans, que j'ai mis comme toute mon œuvre et mon sens. Et éventuellement, peut-être qu'il va y avoir une suite à cette affaire-là.
Bien, on l'espère.
Si jamais les 1000 sont écoulés, ben ils vont rester dans les bibliothèques. Donc vous allez pouvoir aller les lire dans les bibliothèques.
Voilà. Alors, je rappelle le titre « Yo-Yo La 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 » de Sviane. Ça fait partie de la série Jungle, un beau projet. Merci pour cette entrevue. Ça a été fort agréable d'échanger avec vous.
Un gros merci à vous. Bonne journée.
Merci.